peut dire que c'était beau. Parce que parfois je vais dans des églises où je dois me boucher les oreilles, tellement c'est terrible. Beaucoup de bruit, mais on ne sent pas la présence de Dieu. Ici, on sent la présence de Dieu. C'est ça la différence. On est dans la présence de Dieu et on entre dans la présence de Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour qui tu es. Toi, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, toi qui es le souverain, toi qui as envoyé ton fils Yeshua dans ce monde pour nous, à cause de nous. Il a donné sa vie à cause de nous, à cause de moi. Nous te bénissons pour ta présence parmi nous ce matin. Nous t'accueillons, nous te souhaitons la bienvenue. Et maintenant que les paroles de ma bouche, la méditation de tous nos cœurs puissent être agréables, Seigneur notre Dieu. Amen. Si je pouvais avoir un verre d'eau, parce que je sens qu'il y a... C'est pas un chat, mais c'est un chien qui arrive. Alors, j'ai l'impression que vous connaissez déjà beaucoup de choses. C'est ce que je ressens ce matin. Je ne crois pas que je doive vous donner l'ABC de comment Dieu voudrait que nous nous comportions envers son peuple. Donc je vais faire quelque chose un peu différent. Je vais mélanger un petit peu mon témoignage, qui je suis, avec quelques paroles de Romains chapitre 11. Parce que ça, c'est mon cheval de bataille. Quand je vais dans une église pour la première fois, ce qui est le cas ici. Merci. Je prends toujours Romains chapitre 11, parce que comme vous le savez sans doute, si vous avez fait un peu d'école biblique, digne de ce nom, vous avez su que les trois chapitres essentiels qui nous parlent de la place d'Israël dans le cœur de Dieu, dans la nouvelle alliance, je ne parle même pas de l'ancienne ou la première alliance, je parle de la nouvelle alliance, eh bien ces trois chapitres sont Romains, chapitre 9, 10, 11. Et c'est essentiel de bien enseigner ces choses dans nos églises. Parce que sinon, ben, on est à côté de la plaque, on ne sait pas très bien où on en est. Et alors parfois, malheureusement, on tombe un peu dans du folklore pour Israël, dans du sentimentalisme pour Israël, ou même carrément dans l'idolâtrie pour Israël. Et là, moi je dis, attention, parce que nous ne sommes pas appelés à idolâtrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nous devons adorer l'Éternel, le Dieu d'Israël, et lui seul. Personne d'autre. Et avec tout le respect que j'ai pour Israël, en tant que peuple, en tant que pays, il ne faut surtout pas tomber dans cet extrême-là. Il faut vraiment qu'on garde un équilibre. De dire, oui, Dieu aime Israël. Oui, Dieu a gardé son alliance avec Israël, mais Israël est loin d'être parfait. Israël n'est pas un exemple à suivre même. Désolé si ça peut heurter certains, parce que Israël se trompe dans beaucoup de domaines. Et nous le savons tous, il suffit de suivre un peu l'actualité, on voit bien que malheureusement ce peuple est imparfait, comme nous tous, comme les Français, comme les Belges, comme les Suisses, comme les Italiens, comme tout le monde. Il n'y a pas, il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Il faut comprendre que Dieu a choisi ce peuple, mais en dépit de lui-même. D'ailleurs, Dieu le dit dans sa parole, « Je t'ai choisi pas parce que tu es mieux que les autres ou plus grand que les autres. Je t'ai choisi parce que c'est mon choix, un point, c'est tout. » Et nous devons respecter ce choix. Et comme l'a dit Fabrice, malheureusement, dans ce monde, on voit que de plus en plus de gens, au lieu d'apprendre à aimer Israël, c'est juste l'inverse. Ils détestent Israël de plus en plus. Et on trouve toujours des bons prétextes, de bonnes raisons pour détester ce peuple. Moi, je suis né dans une famille protestante depuis 4 générations. Ça veut dire que mes arrière-grands-parents étaient tous protestants. Bien que la Belgique soit un pays catholique, 98% des gens en Belgique sont catholiques. Donc on est vraiment une minorité. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'est plus que 1% de la population. En France, vous êtes 1% et demi de la population. C'est pas beaucoup mieux. En Suisse, 2%, parce que c'est un pays qui traditionnellement a été protestant à travers les réformateurs, et Jean Calvin, etc. Enfin bon, qui était français au départ, hein, comme vous le savez sans doute. Mais il s'est établi à Genève. Et donc on a le mur des réformateurs dans un parc à Genève que vous connaissez sans doute. Mais enfin bon, peu importe. Pendant 4 générations, donc, ma famille a toujours été protestante. Et j'ai la Bible de mon arrière-grand-père à la maison, qui date de 1850. Et protestante, parce que vous savez qu'il y a une différence entre la Bible catholique et la Bible protestante. On n'a pas des, ce qu'on appelle les apocryphes, hein, donc les livres de Maccabée, qui pourtant sont très intéressants, ou Tobie, Judith, etc. Et, bon, moi quand j'étais petit, j'étais présenté au Seigneur dans l'église protestante réformée en Belgique. Donc moi j'ai grandi dans ce milieu-là, parce que c'est le milieu dans lequel je suis né. Et après, mes parents ont déménagé, ils sont venus s'installer à Bruxelles pour le travail de mon père. Et on a commencé à fréquenter l'église méthodiste à Bruxelles, parce que vous savez qu'à l'époque, nous en tout cas en Belgique, on avait encore pas mal de dénominations, comme ça les réformés, les méthodistes, les luthériens, les épiscopaliens, etc. Tous des noms à dormir debout. Enfin bon, en tout cas, l'église méthodiste, pour ceux que ça intéresse, a été fondée par John Wesley, qui était un grand personnage du 19e siècle en Angleterre. Et il a inaugurer l'église méthodiste. Pourquoi? Parce qu'il y a dit, il faut de la méthode. Et je crois que c'est vrai. Quelque part, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand il y a du désordre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut faire attention. En tout cas, donc, j'ai fréquenté l'église méthodiste avec mes parents. Et puis, on a aussi fréquenté l'armée du salut. Parce que du côté de ma mère, mes grands-parents étaient dans l'armée du salut, et ma mère aussi, et ma tante aussi, sa sœur donc. Et j'ai fréquenté ce qu'on appelle l'école du dimanche, enfin, à l'armée du salut. Donc, et j'ai participé à un camp de jeunes, quand j'étais enfant, de l'armée du salut. Et là, tout à coup, j'ai compris. Qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Yeshua, Jésus a fait pour moi, à cause de mes péchés. Et donc je lui ai donné ma vie, j'avais peut-être 9, 10 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bon. Et après donc, à l'église méthodiste, j'ai pu participer à un camp de jeunes à Mâcon, donc ici en France. Et ça, c'était organisé par des Ménonites, si je ne me trompe. Enfin, vous savez, il y a tellement de dénominations, on y perd son latin. Et bon, je suis allé là, au château de Saint-Albin. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un a entendu parler de ce château Saint-Albin. Et qui était géré par des Américains, en fait. Et ils organisaient donc des camps de jeunes, comme ça, chaque année. Et donc, on m'en a parlé. Bon, je suis allé, j'avais 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Ma mère m'a laissé partir tout seul en train, imaginez-vous, à l'époque. Hein, c'était sans GSM, sans portable, etc. Pas moyen de communiquer. Donc c'était vraiment un pas par la foi, hein, que ma mère a fait, en me disant, ok, tu peux y aller. Et là, j'ai rencontré donc ces jeunes, surtout qui venaient des États-Unis, justement. Pardon. Et tous les soirs, on allait partager l'évangile, partager notre témoignage, dans des petits villages, dans des communes, des maisons, dans des salles communales, où on accueillait les gens, et puis on leur parlait du Seigneur, etc. Et j'ai vu que ces chrétiens, pardon, américains, étaient vraiment engagés. Parce que pour moi, ma foi en Dieu, ou ma religion, si on peut l'appeler comme ça, c'était d'aller à l'église le dimanche, et voilà, ça se limitait à peu près à ça, quoi. Mais là, j'ai vu ces jeunes engagés, qui vivaient leur foi tous les jours. Donc, quand je suis revenu en Belgique, je me suis dit, ben, il faut que je m'engage aussi. Il faut que je fasse quelque chose pour le Seigneur, pas simplement le dimanche matin. Et j'ai participé alors au ministère de Teen Challenge, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait été créé en 1958 par le pasteur David Wilkerson. Et donc, ils ont ouvert un café-bar à Bruxelles, dont je faisais partie, moi j'étais un des responsables. Et c'est là que le Seigneur m'attendait. C'est bizarre, on pourrait dire, c'est plutôt là que quelqu'un d'autre, que le Seigneur attendait quelqu'un d'autre, puisque moi j'étais déjà sauvé, etc. Mais en 1984, donc faites le calcul, ça fait 42 ans, un beau jour, donc moi je suis dans ce café-bar, et c'est mon tour d'aller saluer les personnes qui entrent, et le gars qui entre, je vais le saluer, bonsoir, et comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Slavik, et je suis un juif de Russie. J'y joue les violons, mais pas les gling gling gling. C'est textuellement ce qu'il m'a dit. Alors moi j'étais choqué parce que j'avais toujours entendu dire que des juifs il n'y en avait plus. Moi c'est ce que j'avais compris, puisqu'à l'école on nous a dit qu'ils ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis à l'église, quand on nous parlait des juifs, c'était souvent Matthieu 23. Malheur à vous, race de vipères, tombeau blanchi, vous êtes les fils du diable, etc. Et du coup, je me suis dit, mais moi je pensais que vous étiez tous morts, quoi, vous les juifs. Et puis, même si tu es juif, je ne pense pas que j'aurais tellement à voir affaire avec toi, parce que vous avez tellement mauvaise réputation, même dans la Bible. Et il a commencé à me parler, il m'a dit, tu sais, mon grand-père... était le grand rabbin d'Odessa. Odessa, à l'époque, c'était la Russie. Et puis, c'est devenu l'Ukraine. Vous connaissez un peu l'histoire. Mais la communauté juive d'Odessa était une très grande communauté, très importante, une des plus importantes en Europe. Et c'est son grand-père qui était le rabbin et qui connaissait la Bible sur le bout des doigts. Je parle évidemment de l'Ancien Testament. Et il a commencé à me parler... sont donc le petit-fils du grand rabbin, et de me montrer que Dieu a un plan particulier pour Israël et pour le peuple juif. Moi, je suis presque tombé de ma chaise quand il m'a dit ça, parce que j'avais jamais entendu une chose pareille dans aucune des églises qu'on avait fréquentées. Et en réalité, je doutais fort de ce qu'il disait. On nous avait mis en garde, attention à toutes ces sectes et les gens qui racontent toutes sortes de choses, qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas vraies, ce sont des hérésies, faites bien attention. Bon, alors je me suis dit, c'est encore une de ces hérésies, quoi. C'est comme les mormons ou les témoins de Jéhovah ou qu'est-ce que je sais, moi. Donc je me suis dit, oh là là, bon. Mais je l'ai écouté et il me disait, voilà, tu vois, dans la Bible, il est écrit ceci, il est écrit cela. Je lui dis, mais donne-moi les références, parce que moi je vais aller vérifier dans ma Bible à la maison, parce que moi je me fie pas à la tienne, hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme version. Mais bref, moi je m'étais dit, je vais l'avoir au tournant, ce gars-là. Je vais lui montrer qu'il a tort, et que moi, le bon chrétien protestant, j'ai raison. Évidemment. Donc, c'était pas un complexe de supériorité, hein, non, pas du tout. Peut-être un peu d'orgueil, hein, mais bon, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et puis, quand j'allais à la maison et que je regardais qu'est-ce que la Bible dit, je vérifiais les passages qu'il m'avait cités, je me suis rendu compte, petit à petit, qu'en réalité, c'est lui qui avait raison et que moi, j'avais tort. Alors là, ça a été très désagréable de devoir admettre que j'avais tort. C'est pas évident. Mais petit à petit, Dieu a commencé à toucher mon cœur. Et je me suis dit à un moment donné, mais si Dieu aime tellement ce peuple, alors comment se fait-il que moi je ne l'aime pas? Que ça me laisse complètement indifférent. Qu'il vive, qu'il meure, ça, je m'en fiche. J'ai rien à voir avec ces gens. Et ça, je crois que c'est l'attitude de la plupart des gens aujourd'hui, surtout des chrétiens. Ça me rappelle ce que Elie Wiesel disait. Vous savez, un philosophe juif qui était juif roumain et il est passé par les camps de concentration. Et il a écrit des livres. Et il disait ceci. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et là, de nouveau, il parle évidemment de ce qu'il avait vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, de nouveau, je pense qu'on est dans la même situation aujourd'hui. Pour la vaste majorité des gens, c'est pas qu'ils diraient « je déteste les Juifs ». Peut-être certains, oui. Mais bon, la majorité, je pense pas qu'ils auraient le toupet de dire une chose comme ça. En plus, vous savez qu'être antisémite, c'est illégal, faut pas l'oublier. Vous pouvez... Ah oui, si on porte plainte contre vous pour antisémitisme, vous irez au tribunal. C'est la loi. Mais en tout cas, ils vont pas dire une chose pareille, c'est trop dangereux. Mais ils vont dire, mais moi je m'en fiche pas mal des Juifs. Ça me laisse indifférent. Et avec cette indifférence, c'est ça qui a mené ces centaines et ces milliers et ces dizaines de milliers et ces millions de Juifs dans les camps de concentration. Ici en France, en Belgique, en Allemagne, en Pologne. Donc dans tout le pays chrétien, entre guillemets. Il ne faut jamais oublier que l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé ici chez nous, dans nos pays. Même ici en partie en Alsace. Vous avez les Struthof. Vous connaissez, hein? Sinon, il faut aller visiter. Des choses horribles, incroyables se sont passées dans nos pays, dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages. Des gens qui étaient indifférents, au pire, qui ont collaboré pour se débarrasser de ces Juifs. Il faut comprendre, vous êtes dans une région très particulière. Et que, je le disais à Fabrice hier, on est allé voir le musée à Soultz, hein, si je ne me trompe, et il y a toute une section sur la communauté juive dans ce musée, qui parle de bon, la vie... ici dans la région, etc. Mais il y a une salle spécifiquement dédiée aux Juifs, à la communauté juive. Et j'ai dit à Fabrice, tu sais, la raison pour laquelle ils ont cette salle, c'est parce que l'Alsace a toujours été une des régions les plus populées par des Juifs en Europe. Vous avez eu un nombre extrêmement important de Juifs dans cette région. Je crois que la plupart d'entre vous, vous le savez, hein, j'espère en tout cas. Et donc c'est important aussi de comprendre d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé dans cette région, comment les gens ont agi ou réagi, est-ce qu'ils ont fait quelque chose, est-ce qu'ils sont restés assis, indifférents, est-ce qu'ils ont pris position, est-ce que les églises ont pris position. Parce que nous avons une dette envers ce peuple. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 15 que vu que tout ce que nous avons reçu d'un point de vue spirituel nous vient des Juifs, nous avons une dette envers eux et que nous devons les aider aujourd'hui maintenant dans leurs besoins pratiques matériels. C'est ce qu'il dit textuellement. Est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on ne pense qu'à nous-mêmes? Nous avons une dette envers ce peuple. Pourquoi? Parce que comme le disait Yeshua dans Jean, chapitre 4 et verset 22, car le salut vient de Rome. Le salut vient des Juifs. Donc ce qui veut dire que si les Juifs, imaginez-vous, n'étaient pas là, nous ne serions pas sauvés. C'est ça que ça veut dire. Sans les Juifs, il n'y a pas de salut. C'est fort, hein? Mais c'est la vérité. Parce que Dieu a choisi ce peuple, encore une fois, et il s'est révélé au monde à travers ce peuple. Et encore une fois, pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais tout simplement parce que c'était son choix. Et puis, il a envoyé Yeshua, son fils. Il s'est incarné en tant que juif. Il n'était pas obligé, hein? Il aurait pu naître alsacien, par exemple. Hein? Ou belge, ou qu'est-ce que je sais, moi. Mais... Non, il devait naître juif. Pourquoi? Parce que justement, Dieu avait fait des alliances, des promesses à son peuple d'Israël et que le Messie viendrait par eux, par ce peuple. Ésaïe chapitre 9, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Vous connaissez ce verset qui dit clairement que c'est à travers ce peuple d'Israël que le salut nous parviendra. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont oublié ça et qui pensent que ben, finalement, Israël, c'est un pays comme un autre. Ça, c'est ce que j'entends assez régulièrement. Israël est un pays comme un autre. D'une certaine façon, c'est vrai. Parce que c'est un pays qui fait aussi des bêtises, qui se trompe, hein, qui fait des abominations même. C'est sûr, on ne peut pas le nier. Moi, je ne suis pas ici pour redorer le blason, hein, mes amis. Je suis ici pour vous dire la vérité. Mais Dieu le sait parfaitement, bien mieux que moi d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a rejeté son peuple. Ce n'est pas pour autant qu'il les a abandonnés ou mis l'Église à leur place. Ça, c'est la théologie du remplacement, de la substitution. Beaucoup de chrétiens disent, ah, mais vous savez, maintenant, Israël n'a plus aucune espèce d'importance aux yeux de Dieu, dans le plan de Dieu, parce que c'est nous, le nouvel Israël, l'Église. Ben, où est-ce qu'ils ont été voir ça dans la Bible, dites-moi. Où? Où? Nulle part, ça n'existe pas. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ça, c'est Romains chapitre 11. On va prendre quand même ce passage. Un moment, je ne veux pas faire trop long, mais bon, je pense que c'est important de se baser aussi sur ce que dit la parole de Dieu, et pas simplement sur mon opinion, mon témoignage. Hein. Je pense que j'ai raconté assez. Bon, pour quand même, pour continuer un petit peu. Donc, j'ai rencontré un beau jour une superbe jeune fille des Philippines qui s'appelle Esther. Alors déjà comme nom, c'est assez inattendu, parce que les Philippines, c'est comme la Belgique, c'est la vaste majorité catholique, mais comme la France aussi d'ailleurs. Donc, je me suis dit, tiens, Esther, c'est un nom souvent juif évidemment, ce sont plutôt les dames, les filles juives qui portent ce nom. Et puis, bon, on a commencé à se fréquenter, c'était à Bruxelles. Puis un beau jour, elle m'a dit, moi je dois aller à Rome pour travailler. Je me suis dit, mince, j'avais finalement trouvé quelqu'un qui me plaît, avec laquelle je m'entends bien, et elle s'en va. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Ok, j'ai été manger avec un ami de l'ambassade suisse, parce que moi je travaille pour l'ambassade de Singapour, c'est à travers ça que j'ai rencontré ma femme, enfin bon, toute une autre histoire. Et je l'appelle et j'ai dit, Jean-Marc, lui, il était diplomate suisse à l'ambassade de Suisse à Bruxelles. Quand est-ce qu'on peut aller manger ensemble? Donc il m'a dit, voilà, on va fixer une date. Puis on est allé, moi je lui explique ma situation. Il me dit, oh mais Luc, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Hein? Ça me rappelle les paroles de Yeshua, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Et il me dit, avec ton expérience, tu parles déjà italien, parce que j'avais vécu dans le nord de l'Italie, j'ai travaillé pour une station de radio chrétienne, Women in Nuovi, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et, enfin bon, en tout cas, donc tu parles italien, tu parles français, tu parles anglais, et tu travailles déjà pour une ambassade, donc tu as des compétences, tu as de l'expérience, quoi. Écris, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet évidemment, envoie ton CV à toutes les ambassades à Rome. Et tu verras bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et l'ambassade du Canada auprès du Saint-Siège, donc auprès du Vatican, me répond une lettre express. Monsieur Henrist, venez immédiatement. On a besoin de vous parce qu'on cherche quelqu'un pour remplacer une personne qui prend sa retraite. Bon, je suis allé me présenter. Et là aussi, je vais vous raconter en deux mots. J'arrive à l'ambassade, on m'ouvre la porte, bonjour, là, là, blabla, puis on parle, qu'est-ce que vous savez faire, en français, en anglais, ok, très bien, c'est les deux langues officielles du Canada, évidemment. Et puis, il me dit, écoute, désolé, mais il faut que tu parles avec quelqu'un qui connaît bien l'italien, une de nos employées, pour voir si tu te débrouilles en italien. Je dis, ok. Non, c'était non, Esther, elle travaillait, mais pas pour l'ambassade. Et donc, mais c'était Emmanuela, Dieu avec nous. Et j'entre dans son bureau, bonjour, comment tu t'appelles, blabla. Elle me demande, est-ce que tu as un hobby en italien? Je dis oui. Qu'est-ce que tu fais? J'étudie l'hébreu. Elle me dit, oh, c'est pas vrai. Je dis oui. Je me suis dit, oh là là, elle est peut-être antisémite, elle n'aime pas les juifs. Je vais me faire massacrer. Bon, alors j'essaye de changer la conversation. Je dis, et toi, tu as un hobby? Elle me dit, oui. Qu'est-ce que c'est quoi? J'étudie l'hébreu. Non. Alors, elle me dit, mais toi, tu es juif ? Non. Et toi, tu es juive ? Non. Ah, incroyable ! Alors, on était tout enthousiastes, et puis le gérant du bureau arrive, et il nous voit en train de parler, hein, tout exubérant, surtout en italien, avec les mains, bien entendu. Et il dit, bon, je vois qu'il n'y a pas de problème avec l'italien, mais qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire ? Et on lui raconte. Et il dit, eh ben, ça va, c'est bon, alors je vous ramène jusqu'à la porte, parce qu'il faut toujours être escorté dans l'ambassade. Bon, et en sortant du bureau d'Emmanuel, hein, on ferme la porte de son bureau, et il commence à chanter. Et venu shalom aleichem, mais très très fort, comme ça, dans toute l'ambassade. Je dis, mais dans quel asile de fou suis-je tombé, moi, ici? Et donc, j'étais étonné, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça pour un truc? Et puis, il me dit, bon, je vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Je dis, ah bon, ok, d'accord. Parce que moi, je ne savais pas s'ils allaient m'engager ou non. 2 jours plus tard, ils me disent, vous avez le poste. Venez déménager à Rome, parce que vous commencez lundi prochain. Bon, donc c'est comme ça que j'ai habité à Rome pendant plusieurs années. Et j'ai aussi été élu membre du Conseil de l'amitié judéo-chrétienne de Rome. Ben, c'est pas que je le voulais, mais moi je fréquentais les conférences, les réunions, et puis un beau jour, il y a eu les élections pour le comité, pour remplacer les gens du comité, et je vais à la réunion, et une personne, une dame, elle est là devant, en disant voilà les noms des gens qui se sont présentés pour être élus, et j'entends mon nom, alors que moi j'avais rien demandé, j'avais rien dit. Et j'entends qu'elle dit mon nom. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est trompé. Alors, moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, il y a personne qui me connaît. On va jamais voter pour moi, quoi. Et pour chaque personne, on vote. Moi, j'ai été élu à la vaste majorité. Tout le monde a voté pour moi. Je me suis dit, bon, j'ai compris. J'ai pas le choix. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait partie de ce conseil de l'amitié judéo-chrétienne de Rome. Et c'était très instructif. J'ai beaucoup appris sur le peuple juif, sur Israël, sur le judaïsme et les relations entre juifs et chrétiens, etc. Donc c'était très très instructif. Et puis, comme on habitait en Italie, eh bien, on s'est marié à Rome, sur le Campidoglio. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la maison communale de Rome. Voilà. Donc on s'est marié là. Et puis, on fréquentait l'église baptiste internationale à Rome. Et là, ils nous ont fait tout un mariage superbe dans cette église. Ils avaient tout décoré avec nos couleurs. J'ai vu les drapeaux ce matin. Les couleurs, c'était jaune et blanc, ce que vous avez utilisé. Ça, c'était les couleurs de notre mariage en 1990. Donc, vous voyez, hein, ça remonte. Bref, et puis un beau jour, évidemment, on aimait Israël de plus en plus. Et on écoutait les nouvelles sur ondes courtes, sur la radio en ondes courtes, parce qu'il n'y avait toujours pas Internet à l'époque. Et bon, on était conscient de ce qui se passait. C'était le moment où les Juifs de Russie ont commencé à venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, au début des années 1990, quand ils ont finalement ouvert la porte. Et ils sont arrivés. Et moi, j'ai vraiment reçu du Seigneur qu'il fallait qu'on aille en Israël. Mais moi, je pensais qu'on allait là comme pendant 3 mois, 6 mois, maximum, comme touriste, quoi. Et puis, j'avais reçu du Seigneur qu'on pouvait y aller, qu'il nous donnait le feu vert. Et je l'ai dit à ma femme, mais elle m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas si sûr. Mais si tu crois que c'est la volonté de Dieu, on ira. J'ai dit, non, on ne partira pas, tant que toi, tu n'es pas convaincu qu'il faut y aller. Parce que je me suis dit, on vient de se marier, j'ai pas déjà envie d'avoir des disputes une fois qu'on sera là-bas, et elle va me reprocher, tu vois, on n'aurait pas dû partir, t'étais trompé. Hein? Donc, je me suis dit, Luc, méfie-toi, calme-toi. Donc j'ai dit, on va attendre que Dieu te convainque. Et elle m'a dit, moi je veux 3 signes. Je dis, ok, tu peux m'en avoir 4 si tu veux, il n'y a pas de problème. Et alors elle m'a dit, je veux 1er signe. Je veux qu'on ait un appartement en Israël avant d'arriver. 2e signe, qui serait plutôt le premier, je veux un visa, parce qu'elle, en tant que Philippine, elle a besoin d'un visa pour aller en Israël. Pardon. Et 3e signe, qu'on puisse prendre toutes nos affaires, parce qu'on avait donc nos vêtements, nos livres. Moi, j'avais ma chaîne stéréo, tous les tableaux, mon grand-père était peintre, alors j'avais les tableaux de mon grand-père, etc. Enfin, les livres et tout le bazar. Alors, bon, Première demande de visa. Donc on va, pardon, à l'ambassade d'Israël, où je connaissais quelqu'un, et il m'avait arrangé un rendez-vous avec le consul, donc celui qui s'occupe des visas, etc. Bon, on arrive là, et il nous salue, bonjour, et qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, écoutez, moi j'ai pas besoin de visa en tant que Belge, mais ma femme, elle a besoin d'un visa. Est-ce que vous pourriez le lui accorder? Alors il me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en Israël? J'ai dit, mais on va en vacances, on verra. On sera peut-être là pendant 3 mois, peut-être un peu plus. Et il me dit, bon, attendez. Il appelle sa secrétaire, Yaël, hein? C'est son nom, hein? C'est pas de la blague. Donc elle arrive, là, Yaël, et il lui donne le passeport de ma femme. Il dit, allez, occupez-vous de ça. Je me suis dit, oh là là. Ils partent avec le passeport de ma femme, on ne sait pas ce qui va se passer. Je me méfie. Bon. Et puis on parle un petit peu entre nous, puis Yaël revient avec le passeport de ma femme, et il ouvre le passeport, il dit « ici ». Et il met un cachet, il signe, il le ferme, il dit « voilà, vous avez votre visa ». Mais c'était un vrai miracle, parce que moi j'avais dit à ma femme, parce qu'elle m'a dit « je veux le visa immédiatement, sans devoir attendre ». Mais ça n'existe pas. Moi je travaille pour des ambassades, je sais très bien qu'on ne fait jamais ce genre de choses, mais jamais. Mais moi, j'ai donné des visas quand je travaillais à l'ambassade de Singapour. Je dis, mais c'est interdit. C'est carrément interdit. Donc, elle a son visa. Bon, on sort de l'ambassade et elle me dit, tu sais, pendant qu'on attendait mon passeport, là, le Seigneur m'a parlé dans le bureau du consul. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Prenez tout ce que vous voulez dans la voiture. Parce que on ne va pas vous ennuyer à la douane, parce que vous savez, pour entrer en Israël avec du matériel électronique, on va vous taper dessus, vous allez payer des taxes phénoménales, hein, je vous préviens. Si jamais un jour vous voulez y aller, faites gaffe, surtout tout ce qui est électronique. Hein. Donc, elle me dit, le Seigneur m'a dit, on peut prendre tout ce qu'on veut. Je dis, parfait. Elle me demande, tu n'as pas peur? Je dis, pourquoi est-ce que j'aurais peur? Si Dieu t'a parlé, il n'y a pas de problème. Bon, donc on arrive à la maison, et puis on a commencé à charger la voiture avec tout ce qu'on avait, et mes tableaux sur au-dessus, hein, vous voyez, sur le porte-bagages, bien emballé évidemment pour les protéger. Bref, la voiture était remplie comme un œuf, on aurait pu mettre 2 épingles, c'était impossible. Et puis, moi je m'occupais d'un petit groupe de francophones à Rome, et surtout des gens qui travaillaient pour des ambassades africaines francophones, donc par exemple les Congolais, les Rwandais, etc., etc. Bon, des chrétiens. Et donc moi je m'occupais d'eux parce qu'ils n'avaient pas de pasteur. Ok. Et j'ai dit à ma femme, bah, écoute, moi je vais à la réunion de prière avec mon groupe, quoi, avec mon église. Elle dit ok, ça va, ben à tout à l'heure. Pendant que je suis parti, le téléphone sonne. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Alors, elle dit, je suis Madame Betty Oliveiro, je suis israélienne, mais j'habite en Sicile, et j'ai entendu dire que vous cherchez un appartement à Tel Aviv ou en Israël. Elle dit, écoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit, je vais demander à mon mari de vous rappeler quand il reviendra. Bon, et elle jeûnait pour voilà, faire voir l'accomplissement de ces 3 signes. Ce jour-là, elle jeûnait. Et donc, je rentre à la maison, elle me dit, voilà, cette dame a téléphoné. Donc je la rappelle, je dis, bonsoir madame, qui êtes-vous et d'où me connaissez-vous? Elle dit, mais je vous connais à travers cette personne de l'ambassade d'Israël. Je dis, ok, bon, et elle me donne tous les détails. J'ai un appartement meublé, vous pouvez arriver, vous posez vos valises et vous êtes chez vous. Juste à Ramat HaSharon, Ramat Gan, qui est juste le quartier de l'université. C'est un bon quartier, calme. Alors je dis parfait, merci madame. Et elle me donne aussi les coordonnées du contact sur place, qui s'appelle Monsieur Moshe Mourvitz, qui était le premier violon de l'orchestre philharmonique de Tel Aviv. Donc pas n'importe qui. Hein. Bref, je dis ok madame, merci beaucoup. Le lendemain, je téléphone à mon ami de l'ambassade d'Israël. Je dis, c'est toi qui as donné mon numéro de téléphone à cette dame? Il dit, mais jamais de la vie, j'oserais jamais donner ton numéro de téléphone à qui que ce soit sans te demander l'autorisation. Je dis, bon, moi je me suis dit, c'est peut-être une blague. Ou je me suis dit, c'est peut-être Dieu qui a motivé cette personne tout à coup, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment. Je ne l'ai jamais rencontré, figurez-vous, jusqu'aujourd'hui. On ne s'est jamais rencontrés. Mais on est allé voir son appartement, le fameux Moshe Morovitz nous a montré l'appartement et ça nous convenait. Et c'est comme ça que Dieu a ouvert cette porte et qu'on a pu avoir cet appartement même avant d'arriver en Israël. Donc ma femme a eu ces trois signes. Vous voyez ? Il faut avoir le toupet, comme ma femme, de dire au Seigneur, moi je veux bien faire ta volonté, mais d'abord montre-moi hein, si c'est bien toi. Il faut avoir le toupet. Et il faut avoir le courage de dire, mais si Dieu veut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'il le confirme, c'est tout. Moi, je pense qu'il vaut mieux être prudent et pas prendre des décisions qu'on pourrait regretter après. Donc du coup, on est arrivé en Israël, on s'est installé, et puis tout de suite, on m'a proposé de travailler en Galilée, dans le Nord. Et j'ai dit, mais moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas besoin de travailler, j'avais gagné assez d'argent, on avait d'argent assez pour vivre pendant plusieurs mois. J'ai dit, non, c'est bon. Mais ils m'ont dit, oui, tu dois y aller, tu dois, parce qu'on veut te garder ici en Israël, alors il faut que tu ailles travailler. Mais par pitié, moi, je suis pas venu pour travailler, quoi. Laissez les Israéliens travailler, je ne vais pas prendre leur place. Bon, finalement, je téléphone à cette société, une société chrétienne dans le Nord, à Tibériade, ok. Et ils me disent, venez vous présenter, on a besoin de quelqu'un comme vous, avec votre formation. J'y vais, et puis, ils me disent, ok, nous on pense que vous êtes un bon candidat, on voudrait bien vous avoir avec nous. Je dis, ok, mais je dis, moi je voudrais être certain que c'est la volonté de Dieu avant de venir travailler chez vous. Et je dis, vous devriez aussi demander au Seigneur de vous confirmer si c'est moi je suis le bon candidat ou pas. Je dis, parce que vous avez intérêt à être certain, et moi aussi, d'ailleurs. Donc, je dis, on va prier pendant 2 semaines, et puis on se rappelle et on verra ce que le Seigneur nous aura dit. Bon, et puis, de fait, le Seigneur nous a dit, si bien à eux qu'à moi, que oui, il faut y aller. Donc, je suis allé, on a déménagé à Tibériade, j'ai travaillé pour cette société, et puis, tout un tas d'autres circonstances ont fait qu'à un moment donné, eh bien, ça marchait plus. Mais l'ambassade du Canada à Tel Aviv avait entendu que j'étais en Israël. Donc ils m'ont retrouvé, ils m'ont appelé. Bonjour, M. Henri, c'est l'ambassade du Canada à Tel Aviv. Alors, on a su que vous étiez là, en Israël, on a besoin de vous ici. Faudrait venir vous présenter. Alors, j'ai dit, mais vous n'avez personne d'autre que vous pouvez engager? Je me dis toujours, mais c'est incroyable, quoi. Bref. On prend rendez-vous et je vais me présenter à l'ambassade. On me dit, l'ambassadeur vous attend. Je dis, pourquoi l'ambassadeur? L'ambassadeur, il n'est jamais impliqué dans quand on engage du personnel. Qu'est-ce que c'est que ça pour une salade? Bon, on me présente l'ambassadeur, Norman Spector, qui était un sénateur du gouvernement canadien, qui avait été envoyé comme ambassadeur à Tel Aviv. Et il commence à me poser toutes sortes de questions. Bon, il était juif, hein, donc il pose toutes sortes de questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez étudié? Blablabla. Bon. Puis à un moment donné, il me dit, mais bon, vous êtes quand même un cas un peu spécial. Hein. Vous êtes belge, votre femme est des Philippines, vous avez une voiture italienne avec des plaques romaines dessus encore, parce qu'on était venu avec la voiture. Et vous êtes ici en Israël, donc il y a la Belgique, les Philippines, l'Italie et maintenant Israël. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors j'ai dit, vous savez quoi, monsieur l'ambassadeur, moi je veux être sincère avec vous. Moi je suis ici parce que Dieu aime ce pays. Moi je suis ici parce que Dieu aime votre peuple, le peuple juif. Et je suis ici parce que je veux soutenir et montrer mon amour pour ce peuple et pour ce pays. Et je me suis dit, celui-là va me prendre pour un détraqué. Hein, c'est sûrement pas moi qui va prendre. Eh bien, je retourne en Galilée. Et de nouveau, l'ambassade me téléphone 2 jours plus tard. Monsieur Henri, si vous avez le travail, dépêchez-vous de venir ici. Bon, alors je lui ai demandé, pourquoi est-ce que l'ambassadeur m'a retenu? Il n'y avait personne d'autre. Oui, oui, il y avait une autre personne qui était plus qualifiée que vous, en fait. Ah, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas retenu? Non, il a dit qu'il a compris que vous étiez sincère, que vous étiez honnête. Et c'est comme ça que j'ai eu le poste. Et j'ai travaillé là pendant 8 ans, J'ai été aussi pendant ce temps-là pasteur d'une assemblée messianique à Tel Aviv. C'est comme ça que j'ai rencontré Tony Sperandeo. On a travaillé ensemble. Il était l'épaule sur laquelle je pleurais bien des fois, parce que vous savez, s'occuper d'une assemblée messianique, c'est pas toujours évident, hein. Vous savez, pardon, les Juifs, ils ont leurs qualités, mais ils ont aussi leurs défauts, hein. Ça, il faut pas l'oublier, comme tout le monde. Donc, s'il y avait parfois des conflits, mais alors je vous raconte pas, quoi, c'était pénible. Donc, du coup, Tony était vraiment mon confident. Puis j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres responsables des assemblées messianiques en Israël. Et c'est comme ça que Dieu m'a formé, parce que moi-même, pour vous dire la vérité, j'ai été parachuté à ce poste de pasteur d'assemblée messianique, alors que moi-même, en ce qui concerne, par exemple, les fêtes de l'Éternel, mais je ne savais rien. Je n'avais jamais appris ce genre de truc. Donc, évidemment, là-bas, comme on ne célèbre pas Noël, ni les Pâques, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Le petit goy, le petit non-juif, qui doit pasteuriser une assemblée de juifs et d'arabes, et qui ne sait même pas de quoi il parle. Alors bon, le Seigneur m'a dit, ben retourne à l'étude de ma parole, les fêtes de l'Éternel, Lévitique 23 notamment, il y en a d'autres. Mais enfin bon, j'ai appris, et puis j'ai pu enseigner. En d'autres mots, la leçon, il faut d'abord apprendre pour pouvoir enseigner. Il y en a beaucoup, ils enseignent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils n'ont jamais été formés. Il y a beaucoup de pasteurs autoproclamés, des enseignants autoproclamés. Attention, mes amis, attention, parce que ça part dans tous les sens. On te raconte du n'importe quoi, faites bien attention. Bref, donc, moi j'ai été toujours étonné. Je me suis dit, mais Seigneur, tu n'avais pas pu trouver quelqu'un d'autre, que tu as dû me prendre moi pour aller enseigner ces Juifs sur leurs fêtes, sur leurs traditions, sur leurs coutumes, sur leur peuple, sur leur pays. Non, mais c'est fou quand on dit, mais c'est incroyable. Moi, le petit Belge qui arrive de Rome, je dois aller enseigner ces Juifs et leur apprendre ce que dit la Bible sur leurs fêtes, leur pays, leur peuple, etc. Donc c'était une grande leçon d'humilité pour moi. J'ai dû apprendre à m'abaisser et dire, Seigneur, moi je dépends entièrement de toi. Montre-moi, enseigne-moi. Et bien sûr, je me suis aussi, instruit à travers des livres, etc., qui existaient déjà sur tous ces sujets. Et donc, voilà un peu mon parcours. Et puis à un moment donné, notre fils, après 10 ans de mariage, notre fils est né en Israël. Il est né à Bnei Brak, qui est le quartier ultra-orthodoxe de Tel Aviv. Parce que à l'ambassade du Canada, où je travaillais donc, j'avais une collègue. Moi, j'ai demandé, écoute, nous, on est étrangers. Moi, je suis belge, ma femme est des Philippines. Où est-ce qu'on va pour donner naissance ici? Où est-ce qu'on va? Elle me dit, écoute, tu peux aller dans beaucoup d'hôpitaux, mais moi, je te conseille cet hôpital qui se trouve à Bnei Brak, et dont le nom c'est Maane HaYeshua, ce qui veut dire les sources du salut, les sources de Yeshua. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai, ça s'appelle comme ça? Et elle me dit, oui. Elle dit, mais tu verras, ils sont comme toi, c'est des ultra-orthodoxes, ils aiment Dieu hein, de tout leur cœur, tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Bon, on est allé visiter le fameux hôpital, et c'est M. Rothschild qui était le directeur juif de Suisse. Et bon, il nous fait visiter l'hôpital et il nous dit, vous savez, nous, notre priorité, c'est toujours la Torah, la parole de Dieu. Et on va toujours essayer de faire tout ce qu'il faut selon la parole de Dieu. Je dis, waouh, ça c'est excellent. Donc on a su que c'était vraiment là qu'il fallait qu'elle aille. Et puis le jour est venu où Nathanaël est né le 19 janvier 2000. Donc il a 26 ans. Et puis il a grandi pendant tout un temps en Israël et j'ai compris à un moment donné que le Seigneur me disait, maintenant il faut que tu rentres en Belgique avec ta femme parce que moi j'ai besoin de toi là-bas. Et le Seigneur m'a dit, une des très rares fois où j'ai vraiment entendu sa voix, il m'a dit, mets-toi à la disposition des églises pour apporter ce message sur Israël. Et j'ai dit, ok, d'accord. Donc on a plié bagages, on a repris toutes nos affaires, on a tout mis dans un conteneur, parce qu'on a repris nos meubles d'Israël dans ce cas-ci, parce qu'on avait acheté des meubles entre-temps. Et donc on est reparti, et on est arrivé en Belgique, et puis le Seigneur a ouvert des portes. pour que j'enseigne à droite, à gauche, en différentes églises. Et puis, ben voilà, entre-temps, le bébé a grandi et il m'a fait un site internet que vous pouvez aller voir, hein, c'est luc-henrist.com. Et là, bon, moi j'écris des articles régulièrement, je mets des vidéos de mes enseignements, etc. Comme ça, si ça peut vous intéresser. Et puis, eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire ce livre, L'échec de l'Église face aux Juifs. C'est la deuxième édition. Et il faut vous accrocher, hein, parce que c'est pas comique, hein, je vous préviens. Hein. C'est pas un roman, c'est pas comique, c'est pas Mickey Mouse. C'est quelque chose de sérieux. Pour nous les chrétiens, parce que je parle de 2000 ans d'antisémitisme chrétien, il y a des tableaux comme celui-ci, vous voyez, où je mets les dates historiques de tout ce qui s'est passé au nom de l'Église, au nom de Jésus. Je parle aussi de Martin Luther, chapitre 4, qui a écrit ce torchon sur les Juifs et leurs mensonges, en 1543. Et je donne les extraits de son livre. C'est un théologien allemand qui m'a permis de reprendre ces citations. Et puis, chapitre 5, là, on arrive quand même dans quelque chose un peu plus positif. Chapitre 5, ces rares chrétiens qui aiment Sion. Ça, c'est un extrait d'une thèse de master en société plurielle d'une jeune femme qui habite à Sion, mais dans le Valais, en Suisse, pas à Jérusalem. Et donc elle parle des chrétiens sionistes. Et bon, elle m'a interviewé, ainsi que Jean-Marc Taubois, que vous connaissez sans doute, j'espère, et qui malheureusement n'est plus avec nous. Mais Jean-Marc Taubois et moi, on était très proches, on était très liés. Et donc voilà, ce livre est à votre disposition, j'en ai une vingtaine de copies pour 10 francs ou 10 euros, selon ce que vous payez, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que je vois qu'il y a vraiment un grand besoin d'apprendre, surtout dans nos milieux chrétiens. Un des versets clés qui me vient toujours en tête, c'est Osée chapitre 4 et verset 6. Mon peuple a péri par manque d'argent. Non. Parce que tout le monde court après l'argent, tout le monde court après les guérisons, mais mon peuple périt par manque de connaissances. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, dit Dieu à son peuple, et tu ne seras plus prêtre devant moi. Les pasteurs qui pensent qu'ils peuvent raconter du n'importe quoi, sans avoir eux-mêmes étudié, ils se font des illusions. Et ça va mal se terminer, je vous le dis honnêtement. Surtout nous qui enseignons, l'apôtre Paul dit qu'on sera jugé plus sévèrement que les autres. Faisons bien attention, mes amis, quand on enseigne, d'être certain qu'on enseigne vraiment le conseil de Dieu, et pas nos idées, pas nos sentiments, pas nos préférences. Il faut être très très sérieux à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut continuer, il faut persévérer, il faut étudier. L'apôtre Paul le dit aussi à Timothée, apprends, instruis-toi pour comprendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Et vous savez qu'à l'époque, quand l'apôtre Paul a écrit ces choses, le Nouveau Testament n'existait pas. Et quand il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, etc. », de quelle écriture est-ce qu'il parle? De l'Ancien Testament, du Tanakh. La Torah, les prophètes, les psaumes, etc. Il n'y avait pas de Nouveau Testament, mes amis. Quand Yeshua cite la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il cite? Le Tanakh, l'Ancien Testament. Il faudrait qu'on retourne à ce testament, la première alliance, et vraiment la prendre au sérieux. Parce que vous savez, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que le Dieu du Nouveau Testament. Il y en a pour qui, malheureusement, apparemment, c'est pas le cas. Ils pensent comme Bar Sion, vous savez, c'était un hérétique au premier siècle, qui disait que le Dieu d'Israël, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le même que le Dieu du Nouveau Testament, parce qu'il est très violent. Il envoie son peuple à la guerre. C'est un Dieu terrible, vengeur. Tandis que le Dieu du Nouveau Testament, finalement, il est devenu gentil. Hein? Finalement, Et on pourrait presque dire qu'il est allé à une campagne Billy Graham et s'est converti, il était temps. Hein. Hein? Encore heureux. Et du coup, ben, il est devenu le petit Jésus dans la crèche. Oh, comme il est mignon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque année, Jésus, il est toujours dans la crèche comme bébé. Il n'a jamais grandi, il faut croire. C'est bizarre quand même. Hein, moi, je ne comprends pas. C'est pas normal. On a des préjugés et des idées préconçues sur Dieu et sur Yeshua. Et pour moi, personnellement, c'est important de l'appeler Yeshua, parce que ça, c'est son vrai nom. Ça, c'est son vrai nom. Vous savez, quand il est né, il n'y a personne qui l'appelait Jésus, ou Jesus, ou Jesu, ou Yesus, ou tout ce que vous voulez. Parce que dans chaque langue, il a un nom différent. Je ne sais pas si vous le saviez. Et l'apôtre Paul dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et c'était quel nom qu'il avait dans sa tête? Yeshua. Parce que c'est le nom, l'ange a dit à Joseph, ta femme va avoir un fils, bientôt. Et tu l'appelleras du nom de Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Yé, du nom de Dieu, Shua, sauve. Yeshua, parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Et là, vous comprenez le verset. Parce que pendant des années, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il dit, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui va sauver son peuple. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a des versets comme ça qui sont obscurs parce qu'on ne comprend pas le contexte. On ne remet pas le texte dans son contexte et ça en devient un prétexte. C'est ce que j'ai appris à l'école biblique, une des rares choses dont je me souviens. Donc, il faut vraiment retourner à la parole de Dieu. Il faut retourner au Dieu d'Israël parce qu'il n'y en a pas d'autre, mes amis. Adonai Echad, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, écoute bien. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et c'est ça, bon, je ne rentre pas dans Romains 11 finalement, c'est trop tard, mais dans Romains 11, vous le lirez à la maison. Ça vous fera un bon rappel, un bon sujet de lecture. Et l'apôtre Paul parle de deux oliviers. Un olivier franc, c'est-à-dire qu'on cultive, qu'on a planté dans le jardin, dans son champ, et on s'en occupe. On met de l'eau, on l'arrose, on taille, on élague, etc., hein, pour qu'il porte du fruit. Et puis il y a un autre olivier, là, sauvage, ça ne veut pas dire qu'il habite dans la brousse, hein, au milieu de la jungle, hein, mais ça veut dire qu'il est, il est né là comme ça, pratiquement par hasard, hein, parce que quelqu'un a acheté un noyau d'olive et ça a commencé à pousser. Voilà, ça c'est l'olivier sauvage. L'apôtre Paul dit, ben, l'olivier franc, l'olivier cultivé, c'est la maison d'Israël, évidemment. Et nous, les non-juifs, nous venons de l'olivier sauvage. Et c'est vrai qu'on est parfois sauvage, hein, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, et il dit, notamment, que au verset 17, que nous avons été greffés, nous les non-juifs, sur les juifs. Ça c'est déjà la première chose qu'il faut réaliser. Que dans le plan de Dieu, dans la conception de Dieu, ce n'est pas aux juifs de venir vers les non-juifs, c'est aux non-juifs d'aller vers les juifs. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans Éphésiens chapitre 2. Que nous, les non-juifs, nous étions loin de Dieu, sans Dieu dans ce monde, sans espérance. Mais Dieu nous a rapprochés de qui? Mais de son peuple, d'Israël de nouveau. Et maintenant, à travers Yeshua, des deux, les juifs et les non-juifs, il n'en a fait qu'un, Adonai Echad. Nous devenons un avec le peuple juif. Je ne sais pas si vous l'aviez jamais réalisé. Et que donc, en tant que croyants en Yeshua, nous avons été adoptés, intégrés, greffés sur cet olivier. On fait partie d'Israël. On ne remplace pas Israël, mais on fait partie d'Israël. Et donc, Dieu veut que nous ayons cette compréhension. Il n'est pas venu pour créer deux peuples. Il est venu pour créer un seul peuple. Et à travers Yeshua, nous entrons et nous participons avec ce peuple à la bénédiction de Dieu. C'est ça l'idée. Mais donc, au verset 17, il dit ceci. « Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, parce que les juifs qui n'avaient pas cru, ben Dieu les a punis. » les a coupées. D'accord? Mais dans certaines versions, il est marqué qu'elles ont été élaguées, ces branches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous connaissez un peu l'agriculture? C'est que si on élague un buisson ou un arbre, ça ne veut pas dire que la branche est morte. Ça veut dire que simplement que potentiellement elle va pousser encore mieux un peu plus tard. Hein, c'est ça l'idée. On ne coupe pas la branche pour lui faire du mal ou la tuer. On la coupe pour qu'elle puisse reprendre vie et pousser et porter du fruit. Donc, il dit, verset 17, « Quelques-unes des branches, les Juifs, ont été coupées ou élaguées, et toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé, non pas à leur place, comme le dit la version Louis II. » Vous savez que, malheureusement, Louis II, il a fait pas mal d'erreurs de traduction. Donc, il faut faire attention, c'est pas du tout à leur place. Parce que si on dit que nous avons été greffés à leur place, ça veut dire qu'on est dans la théologie du remplacement. Et donc, il y a certains pasteurs qui disent, mais vous voyez, c'est écrit, nous avons pris leur place. Donc, on est dans la théologie du remplacement. Mais dans la seconde 21, c'est celle que j'utilise, ils ont corrigé. Ils ont dit, tu as été greffé parmi les branches restantes. C'est exactement ça qu'il est écrit dans le grec. Et tu es devenu participant de la racine de la sève de l'olivier. Ne te vante pas aux dépens de ses branches. Donc attention, fais pas trop l'orgueilleux. Moi, je suis mieux que vous parce que vous avez été coupé. Mais moi, Dieu m'a pris et m'a intégré. Fais attention à ce genre d'attitude. Et puis, un peu plus loin, au verset 24, je veux vraiment partager ça parce que c'est important, je ne veux pas faire trop long, mais il y a des années, j'étais en tournée en Suisse, comme maintenant, moi je reviens de ma tournée en Suisse là, et puis j'étais dans une église et à la fin du culte, il y a un monsieur qui est venu vers moi, qui est un agriculteur, et me dit, bon, monsieur Henri, merci beaucoup pour votre message, c'était très intéressant, mais moi je ne comprends pas cet apôtre Paul. Selon moi, il comprend rien du tout à l'agriculture. Parce que il dit, verset 24, « Tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé. » Il dit, mais on ne fait jamais ça dans la réalité. On fait juste l'inverse. Vous savez un peu le jardinage, vous. Hein? Donc vous savez de ce dont je parle. Il dit donc, ça ne tient pas la route, ce verset. Et j'ai regardé de nouveau, en faisant attention, j'ai vérifié dans d'autres versions, et il dit, si toi, donc nous, les non-juifs, nous avons été coupés de l'olivier sauvage auquel on appartenait par nature, et nous avons été greffés contrairement à la nature, sur l'olivier cultivé. En d'autres mots, ça ne devait pas marcher. Parce que dans la réalité, dans la nature, ça ne marche pas. On ne va pas greffer une branche d'un olivier sauvage sur un bon olivier. On fait l'inverse. On prend la branche de l'olivier du bon arbre et on le met sur l'olivier sauvage pour l'aider à pousser et à devenir un bon olivier. Mais Dieu a fait l'inverse ici. C'est un vrai miracle. Ça ne devait pas se passer. À d'autant plus forte raison, nous devons être reconnaissants à Dieu. Parce que c'est contre la nature ce qu'il a fait. Et vous devez, aussi apprendre cette leçon d'humilité que finalement, vous savez, Yeshua, il le dit clairement. Moi, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il le dit plusieurs fois. Quand la femme phénicienne vient lui demander la guérison de sa fille, si je me souviens bien, il lui dit, moi, je suis désolé, mais je ne donne pas le pain qu'on donne aux enfants aux chiens. Donc en fait, il la traite de chien, carrément. Mais elle lui répond, c'est vrai Seigneur, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais les petits chiens, ils ramassent quand même les miettes qui tombent de la table. Quelle humilité! Et quelle compréhension de la puissance de Yeshua! Extraordinaire cette femme! Et Yeshua lui-même a été ému, il a été, j'ai jamais vu autant de foi en Israël. Et il a reçu sa guérison. Elle a reçu ce qu'elle demandait. Notre attitude compte beaucoup, mes amis. Romains chapitre 11 nous parle exactement de ça. Quelle sera mon attitude envers ce peuple juif? Même ceux qui ont été coupés à cause de leur incrédulité. Est-ce que je les considère comme mes ennemis, comme des bons à rien, avec lesquels je ne veux pas parler, avec lesquels je ne veux pas dialoguer? Eux, ils sont chez eux, nous, on est chez nous. Ou est-ce que vous êtes conscient que vous faites partie de la même famille? Qu'eux, ils adorent le Dieu d'Israël, et vous aussi, normalement, vous adorez le Dieu d'Israël. À un moment donné, c'est ce que l'apôtre Paul dit, que nous devons nous rapprocher d'eux. Nous avons été intégrés avec eux dans la famille du Dieu d'Israël. Et nous, eh bien, c'est grâce à Yeshua, mais eux aussi. Mais quelque part, c'est en les aimant, en leur montrant notre amour, sans aucune attente en retour. Moi, je dois aimer les Juifs parce que Dieu a tant aimé les Juifs, le monde, qu'il a donné son Fils. C'est tout, sans m'attendre à ce qu'ils se convertissent à ma religion. Vous savez, le mot convertir, ça veut dire changer de religion, changer de Dieu. Alors, à quel Dieu voulez-vous qu'ils se convertissent? Ils ont déjà le Dieu d'Israël. Vous voulez qu'ils adorent un autre Dieu? C'est pas bien. C'est pas du tout ce que Dieu veut. Il faut qu'on comprenne ces choses. Toute la Bible nous parle du Dieu d'Israël, du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, il est encore parlé des 12 tribus d'Israël. Il est parlé de Jérusalem. Il n'est pas parlé de Rome, hein, les amis, attention, hein. Désolé, mais c'est comme ça. Donc on doit vraiment demander à Dieu de nous donner sa perspective, que ses pensées deviennent nos pensées, que ses voix deviennent nos voix, et que nous puissions dire avec Ruth, « Ton peuple est mon peuple ». Et ton Dieu est mon Dieu. Et non pas ton peuple sera, parce que dans l'hébreu, c'est pas comme ça que c'est écrit, c'est au présent. Tout de suite, maintenant, ton peuple est mon peuple, car ton Dieu est mon Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'il puisse continuer de nous éclairer dans ce monde de ténèbres, de confusion, et où on entend tellement de choses bizarres. Des doctrines qui ne tiennent pas la route, qui ne viennent pas de toi. Permets-nous de discerner ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est mauvais. Et permets-nous surtout de nous accrocher à toi et à ta parole. C'est ce que nous te demandons au nom de Yeshua. Amen.